Bienvenue dans Parlons Pop et Parlons Bien, le podcast sur la pop culture en général et surtout en particulier. Alors aujourd'hui, on est au jour 5 de Sériemania et déjà je sais que tout fout le camp parce que je n'ai pas réussi à voir une seule série et ça fait 3 heures que je suis là. Tout ce que je fais, c'est parler à des gens. Du coup, eh ben, je vais parler avec des gens en enregistrant et donc ça va peut-être être plusieurs personnes différentes. Donc ça, c'était le générique de début. Et donc, est-ce que tu veux bien te présenter ?
J'ai des problèmes techniques, je chante.
Voilà. Donc vas-y, présente-toi, chanteur, Jérénique.
Voilà.
Générique, créateur de générique fou, vas-y.
Je fais le générique en playback, en fait, pour faire style, tu as des problèmes techniques, alors qu'en fait, on n'a pas. Je suis Florian Tchuveri, je bosse pour Clapmag et Rokirama, et accessoirement, je suis Lord of Noise sur Twitter. Bonjour à tous.
Et d'ailleurs, tu es responsable pour avoir beaucoup fait parler de notre podcast à ses débuts et je suis très 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 reconnaissante de cette opportunité que tu nous as donnée. Tu as écrit des jolis petits papiers et on est très contents.
De rien.
Alors du coup, on est à Sériemania, tu as écouté un des podcasts qu'on a fait et tu as un contre-point de vue sur un des trucs dont on a parlé qui sont The Art of Television, l'essai documentaire pour OCS de Charlotte Bloom. Je tiens à préciser à nouveau que tout ce qu'on avait dit avec Dom, c'était uniquement sur le premier épisode, mais je suis heureuse d'entendre ce que toi tu as à dire sur le sujet. Donc vas-y, on t'écoute.
Alors donc contrairement à Dom et toi, moi je n'ai pas pu aller à la première partie donc de The Art of Television qui était vendredi et pour laquelle vous avez enregistré votre podcast, mais j'y avais été hier à la deuxième partie qui réunissait donc trois autres réalisateurs de séries de renom qui sont Jennifer Getzinger qui a bossé notamment sur Mad Men, qui est Alan Taylor, donc réalisateur ultra connu notamment pour Game of Thrones et qui est et aussi pour Matthew Penn qui était d'ailleurs à Sériemania numéro 7, oui, pour une masterclass à laquelle je n'ai pas assisté. Donc c'est
à laquelle j'ai assisté moi, donc j'imagine que c'était super intéressant du coup.
Et c'était super intéressant. Et j'ai un contrepoint à apporter parce que évidemment les 6 épisodes de 26 minutes suivent à peu près le même format et ont à peu près les mêmes idées visuelles que vous avez dites, donc ce qui me permet de faire le contrepoint.
Ah, d'accord, donc ça ressemblait à ce que je décrivais.
Ah oui, parfaitement. Enfin, les 6 épisodes ressortent du même moule. Alors ce que vous avez dit ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai regardé quand même depuis que OCS a été créé, j'ai regardé pas mal de documentaires qu'ils ont créés. Il y a aussi pas mal de documentaires pour les chaînes du câble que j'ai critiqué, notamment quand je bossais pour Small Things, dédicace à Small Things, tac. Il y a le point commun de ces documentaires, c'est que ils sont produits pour pas un rond et ils ont toujours non seulement très peu d'intervenants et très très peu de moyens, mais souvent des sujets passionnants. Et ce qui m'amène pour revenir à Art of Television, c'est un tout petit peu le cas de Art of Television. Mm-hmm. Donc par rapport à ce que vous avez dit, il y a un tout petit peu des reproches qui ont été faits sur la forme du documentaire, que je pense qu'ils sont attenantes au fait que ils n'ont pas de moyens et ils ont produit ça sur un planning de production très serré. Ce qui, voilà. Donc, Dom notamment a parlé du manque d'extraits. Je pense que...
Enfin, en disant qu'ils supposaient qu'ils n'avaient pas accès à des extraits. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'a pas reproché le manque d'extraits. Attention, hein. On a dit qu'on a supposé que les trucs qui nous dérangeaient, c'était lié au fait qu'ils n'avaient pas accès à des extraits.
Ouais, alors, donc, ce qui a été trouvé pour remplacer ça, et donc vous verrez donc, en juillet quand ça sera diffusé, c'est un espèce de mood board qui retrace un petit peu qui retrace la carrière ou qui retrace certains des points intéressants attenant au réalisateur. Donc pour Mad Men, il y a énormément de photos de la série. Pour Alan Taylor qui a bossé sur Homicide, il y a pas mal de photos de Homicide et il y a ce que ça leur inspire, etc., etc.
Tu veux dire le truc sur le mur?
Voilà.
Parce qu'il y a un mur comme ça dans.
Il y a des murs pour chaque réalisateur attenant.
Cool, oui. Mais alors le mur, apparemment, de ce qu'on m'a dit, n'est pas exactement mis en scène de la même façon. Et moi, les trucs qui me dérangeaient, c'était pas le mur, c'était les prises de vue sur des photos et les prises de vue en décor. Mmh. Je tiens à préciser que ce mur, je le trouve intéressant aussi.
Voilà. Et moi justement, je voulais vraiment faire ça parce que j'ai trouvé cette idée vraiment vraiment intéressante, parce que tout simplement sans ça. De manière générale, on aurait soit du talking head, soit encore plus de graphiques jolis, mais un tout petit peu creux. Donc il y a.
J'ai bien aimé les graphiques, tu vois.
Voilà, c'est ça. Tu disais que tu avais bien aimé les graphiques, mais t'en aurais encore plus si on n'avait pas cette idée de mood board.
Ah non, mais le mood board, moi, il me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est vraiment le traitement des images. externes qui sont des plans de coupe et des photos de promo de la série qui sont mis en lumière. Et enfin, en fait, c'est ça, c'est le ça, vraiment ça spécifiquement, esthétiquement, ça me pose problème.
Ouais, et esthétiquement, en fait, c'est quelque chose qui peut, pourrait faire rejoindre en fait le genre de programmes qui sont produits avec le même budget. Le même genre de programmes qui sont produits avec le même budget, qui sont en gros les making-of ou les electric press kits, l'electronic press kits,
oui,
qui
ça.
Sont notamment voilà, des petits extraits ou des petits rushs en fait, de d'acteurs ou de réalisateurs qui s'expriment et qui sont donnés à la presse audiovisuelle,
ouais,
ou à la presse web pour que ça soit monté et faire des petits sujets vidéo. Dans l'esprit, voilà, c'est peut-être quelque chose qui, si c'était enfin, si c'était pas une bonne série documentaire, ça se rapprocherait de ça. Et précisément parce que moi personnellement, j'ai trouvé que justement parce que l'éditorial est intéressant et parce qu'il y a un éditorial, ça n'est pas un electronic press kit, ça n'est pas un sujet qui est forcément, ça n'est pas un sujet qui est forcément en roue libre.
Alors justement, moi je trouve pas que c'était en roue libre non plus. Je trouvais que ça manquait de point de vue. Maintenant, une fois de plus, peut-être que dans l'épisode, peut-être que c'est le premier qu'ils ont fait, peut-être que c'est différent des autres. Toi, t'as senti le point de vue, t'as senti la contextualisation, t'as senti l'angle.
Alors, l'angle, c'est très simple, et c'est pour ça que c'était aussi une des grosses choses auxquelles je voulais réagir. Tu disais que il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de point de vue. Qu'est-ce qui, dans un documentaire comme ça, exprimerait le mieux le point de vue ou l'angle ?
Le fait que tu donnes du sens, c'est-à-dire de dire, en fait, en gros, pour moi, c'est ça, c'est l'angle, et c'est comme dans un article, c'est tu lis un article hyper précis sur un truc que tu connais pas, et la raison pour laquelle tu lis l'article jusqu'au bout, c'est parce que l'angle de l'article fait que du coup, tu as une contextualisation du sens plus large et de l'ambition. Voilà. Et donc, en gros, c'est est-ce que je peux montrer cette série documentaire à quelqu'un qui s'intéresse pas au réalisateur de série ? Est-ce que je peux montrer cet épisode de 26 minutes et est-ce qu'il va en retirer quelque chose de plus large au-delà de la spécificité ? Moi, je suis pour la spécificité hein, et le concret, mais est-ce que, du coup, grâce au point de vue, eh ben, du coup, je comprends pourquoi tu m'en parles, je comprends pourquoi c'est intéressant. Moi, quand je parle de Buffy, je passe ma vie à parler de Buffy à plein de gens qui n'ont rien à faire. Si je l'angle pas, si je dis pas, je te parle de ça parce qu'il y a ça derrière, je te parle de ça pas juste pour parler de Buffy, mais parce que... Et du coup, c'est très difficile de mettre le doigt dessus. C'est quoi ? Mais quelque part, c'est... Enfin, toute une partie de la profession journalistique se pose la question. Mais pour moi, ce que j'ai ressenti, c'est je ne sais pas pourquoi toi tu veux... En fait, c'est peut-être ça. Je ne sais pas pourquoi toi tu veux m'en parler, Charlotte Blum. Je trouve ça intéressant parce que moi, j'ai des raisons de m'y intéresser. Et quelque part, je pense que c'est un défaut qu'on a souvent format en France, parce que justement, c'est une forme d'humilité de la part du créateur de pas se mettre en scène, mais même pas se mettre en scène de façon filigrane, de pas nous dire pourquoi lui il est intéressé en disant juste je sais pas, moi je trouve ça intéressant, vous aussi.
Il y a deux choses. D'abord c'est intéressant parce que on ne regarde pas, enfin ça n'est pas je sais pas exactement pourquoi t'attendais une vision spécifiquement d'avoir donc une journaliste qui apporte son, en l'occurrence Charlotte Blum, qui apporte son chose là. Donc je pensais, en écoutant ça...
L'œuvre a besoin d'un point de vue, c'est ça que je veux dire.
Alors, le point de vue, pour moi, il est très simple. Enfin, c'est pour ça que j'ai été surpris, c'est que je trouve Art of Television très straightforward, je trouve donc très...
Direct.
Très direct dans son approche, qui est, on vous a mis 6 réalisateurs, on sait que vous êtes fan de série, après tout, c'est le slogan du CS, voilà, vous êtes fan de nous aussi, j'apprécie pas énormément le slogan, mais it is what it is. On sait que à la base les téléspectateurs ou les gens qui vont être les quelques téléspectateurs qui vont être attirés sur Art of Television vont connaître un tout petit peu les séries ou vaguement dont on parle. Laisse-moi finir, j'avais deux choses. Charlotte Blum, c'est pas l'auteur du documentaire de la manière dont, je sais pas, bon, voilà, pour caricaturer, voilà, Ken Burns serait un auteur de tous ces documentaires ou des choses comme ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de regard, mais le fait qu'elle n'ait pas une voix off ou qu'elle n'ait pas ajouté des espèces de bancs titres, comme tu dis, pour contextualiser ou des choses comme ça.
Je ne dis pas que c'est les bancs titres la solution, hein, mais.
Ouais, c'est ça. Il y a ça. Et l'autre chose, c'est que de manière très straightforward, c'est. L'angle, c'est très simple. Ce sont ces réalisateurs, face caméra, qui se racontent. De la même manière que tu pourrais les trouver dans un bonus de DVD, dans un bonus sur Six Feet Under, ou dans un bonus de Game of Thrones, en fait. L'angle, d'ailleurs, il est aussi précisé à travers... Enfin, il y a même une structure qui est très très simple, c'est-à-dire qu'il y a une première partie qui est un peu plus... qui est un espèce de pot-pourri, donc vraiment sur leur ressenti, sur leur carrière, sur les jalons. Et après, à chaque fois, il y a des angles qui sont précisés avec Game of Thrones, dans mon cas avec Game of Thrones, avec les séries policières, avec ces choses-là. Et le troisième, la dernière partie de documentaire aborde les projets et les collaborateurs qui sont actuels et va leur demander exactement ce qui est là. Je pense pas que c'est des choses qui passent peut-être pas au-dessus de la tête du téléspectateur lambda, mais qui ne passe pas au-dessus des téléspectateurs d'OCS qui vont aller un beau jour d'été se focaliser sur le documentaire.
Moi je pense, j'entends tout ce que tu dis, mais je pense qu'en réalité, et c'est juste, je pense que du coup moi ce que je voudrais c'est qu'il y ait eu plus d'ambition, et quand je parle d'ambition c'est je pense que c'est une erreur de se limiter dans le potentiel de ce qu'on peut faire parce que quelque part c'est le rôle de la chaîne et c'est le rôle de le programmateur et c'est parfois un peu le rôle du producteur, mais c'est aussi le rôle du producteur de penser ce que ça peut être. Et l'art du documentaire en général, c'est de parler à tout le monde, même quand tu parles d'un truc ultra précis. Et ça ne veut pas dire abêtir ce que tu es en train de dire, mais tous les grands documentaires ont, parce que tu fais appel à quelque chose d'universel dans la réflexion humaine qui du coup dans n'importe quel sujet ça en parle, et t'es pas obligé de le faire volontairement. Je suis en train de dire t'es pas obligé de le faire volontairement, genre alors je vais vous expliquer ce que c'est qu'une série. Je parle pas de ça. Je parle qu'il y a un art magique qui est de rendre n'importe quel sujet universel parce que t'y réfléchis aussi en termes de... Je peux même pas t'expliquer ce que c'est. C'est juste que quand t'as un film documentaire qui parle à tout le monde, c'est pas toujours parce qu'il est stupide. C'est parfois le truc le plus spécifique et le plus niche de la Terre. C'est juste que la façon dont on en parle, ça te parle. Et là, je trouve que, et j'ai peur qu'ils aient pas pensé que ce soit possible, et que du coup, ils ont pas essayé.
Je pense qu'ils ont pensé que c'était possible dans le sens où il y a eu, comme Bloom l'expliquait en introduction, il y a eu un processus spécifique de sélection. Et il y a aussi un processus spécifique de sélection par rapport aux séries, qui pour le coup, les séries sont assez connues. Alors maintenant, il y a une chose, je ne pense pas que ça sépare.
Mais ça, c'est le contenu, moi, le contenu.
Je pense pas que l'expérience de visionnage, quand ça sera programmé cet été, sera différente de quelqu'un qui zappe sur France 5 et qui voit un documentaire sur l'art contemporain, alors qu'il ne connaît rien.
Alors qu'il ne connaît rien à l'art contemporain. Les documentaires télévisés sont problématiques en France, de toute façon. J'avoue, j'ai un souci général avec cette problématique que je suis en train de dire. Ouais. Je pense que c'est probablement bien, voire mieux que ce qui se fait habituellement en général. C'est juste que moi, mon attente, elle est ailleurs. Peut-être que c'est un truc culturel, peut-être que les Français veulent pas voir ce que moi je veux voir, c'est possible.
Je sais pas si tu veux tes attentes et donc le fait que ça n'est pas du coup Art of Television n'est pas forcément répondu.
Non mais attention, par rapport à un standard d'excellence, n'est pas répondu
à tes attentes, mais n'est pas répondu aussi à quelque chose que tu pouvais recommander ou que tu peux recommander aux auditeurs.
Mais si, parce que je l'ai recommandé. Je l'ai recommandé aux éditeurs. C'est juste
mais
que j'ai des critiques. Mais oui, mais j'ai tout le temps des critiques surtout. C'est aussi ça, le truc, c'est que si tu tiens pas les gens, surtout les gens intelligents et qui essayent de faire des trucs, si tu les tiens pas au standard d'excellence de tout le monde, si tu fais pas remarquer, oui, mais là, est-ce que vous pouvez pas encore aller plus loin ? Et ben dans ce cas-là, on n'avance jamais. Enfin, tu vois, pour moi, c'est ça aussi.
Ouais, mais
l'encouragement, c'est aussi de demander plus. C'est pas juste de dire ah c'est super.
Ouais, mais mon approche c'est que pour ce type de documentaire sur ce sujet-là, pour cette chaîne-là en l'occurrence OCS, honnêtement c'est je vois aussi, et c'est peut-être mon approche différente, je vois aussi la configuration dans laquelle elle a été produite, c'est-à-dire que c'était à peu près le seul format de manière à faire exister ça. Je pense pas que donc ce documentaire ou cette idée-là, elle puisse exister en presse écrite. Je pense pas qu'elle puisse exister en livre actuellement en 2017. Et je pense que c'était aussi la forme la plus vivante de faire aboutir ça.
Je suis d'accord. Je pense juste que pour moi c'est un boulot de montage. C'est pas le contenu qui me dérange. C'est pas ce qu'ils ont fait. C'est qu'il y a dans le montage, il y a une façon de mettre en lien les choses différemment, de les mettre en scène différemment. Je dis pas que j'ai la solution, je dis pas que je saurais le faire. Je dis juste que quand je vois ça, j'ai un regret. Je voudrais que ce soit mieux. Après, quand je dis je voudrais que ce soit mieux, c'est aussi je voudrais que ce soit un chef-d'œuvre, comme toujours. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas en train de dire que c'est mauvais.
Ouais.
Il y a des trucs que je trouve mauvais, Là, je trouve pas ça mauvais. Je trouve que c'est dommage. Je trouve qu'il y avait, on pouvait sortir de la niche et que ça sort pas de la niche. Au-delà des problèmes esthétiques que j'ai, qui là pour le coup sont des trucs très spécifiques, et quelque part ça, je leur pardonne parce que on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a.
Après, justement, je trouve aussi, parce que tu disais en introduction, avant de vraiment d'adresser les, enfin vraiment de parler de documentaire en toi-même, que tu trouvais souvent Bloom peut-être source documentaire didactique.
Alors pour moi c'est pas du tout un mot péjoratif, hein. Didactique, c'est tout à fait positif.
Ok, donc du coup ça j'avais pas compris.
Didactique c'est bien, ça veut dire que, enfin pour moi c'est justement au contraire.
On bascule sur le commentaire sur le podcast en lui-même en fait.
Mais c'est ça, en fait c'est un podcast sur le podcast. Mais par contre, le seul truc qui m'embête, c'est que là j'ai l'impression que du coup je passe beaucoup de temps à dire du mal du truc, alors que je veux pas faire du tout. J'essaie juste de clarifier. Parce que je pense qu'en plus c'est le problème qu'on a principalement dans l'industrie française en tant que gens qui parlent et qui s'intéressent et qui sont dedans, c'est qu'on est soit on dit c'est de la merde. Soit on dit mais non, c'est assez bien comme ça.
C'est-à-dire qu'on est entre
la destruction et la complaisance.
C'est ça.
Oui, mais le problème c'est que la complaisance qu'on s'est tous habitués à adopter vis-à-vis d'une industrie française, à mon avis, dessert notre désir de création et notre désir de vie. On faut arrêter de dire c'est assez bien, il faut dire ça c'est bien, ça c'est pas encore assez bien. Dans le truc, hein, pas cette série est bien, cette série est pas bien, c'est plus dans cette série ça c'est bien, ça c'est intéressant, dans cette série ça manque encore.
On est d'accord.
Pour moi, c'est comme ça qu'on va avancer. Quoi.
Je vois, mais après, si tu veux. Et encore une fois, on parlait d'industrie française, et encore plus une fois, c'est spécifique au documentaire. C'est spécifique au documentaire et c'est spécifique au documentaire de série sur des chaînes, parce que voilà, des documentaires comme Art of Television, on va être sincère, Arte en a fait quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup et ils sont très très généraux. Donc il n'y aurait que OCS et Ciné+, parce que les chaînes Ciné+ ont encore une mini-production documentaire. Du coup, elle me met un timer en fait sous ma chaîne, je sais pas si
je suis désolée, non, c'est juste pour voir qui l'a. Désolée, j'ai arrêté, j'ai coupé Florian.
Et non, le truc avec.
J'ai mangé un bout de mon
le truc avec.
Parce que
voilà.
Tu trouves pas.
Hein. Voilà. Donc, et un
coup. Mais si, je veux pas.
Moi, non. L'industrie documentaire en France, en fait, et spécifiquement pour ce projet tel qu'il existe, c'est que ça va être fait. Ça va jamais être édité en DVD, ça va être diffusé, ça va peut-être rester un certain moment sur les plateformes privées et ça va disparaître. My point est que ces choses-là, c'est très simple, soit ces choses-là existent, soit elles n'existent pas. Il n'y a pas de in-between où il y aurait un documentaire pionnier qui ferait réaliser que peut-être il faudrait mettre plus de temps ou plus de contenu éditorial dans ces choses-là en fait. Donc c'est des choses qui sont c'est du contenu additionnel, et je rappelle aussi que des diffuseurs comme ça, c'est pas leur produit d'appel, ils n'ont pas à produire ce genre de documentaire, tu vois ce que je veux dire. Donc mon approche est beaucoup plus, on va dire, radicale. C'est que je suis super content que Art of Television ou d'autres documentaires de ce type-là existent tout court, en fait.
Je tiens à dire, c'est ce que j'ai dit texto dans le podcast aussi. Hein.
Oui.
Je suis contente que ça existe.
Mais
je l'ai dit.
je parle si tu veux de ta chose sur si on ne critique pas, ça ne progresse pas.
Et alors, je vais te répondre juste parce que tout ce que tu viens de dire, on aurait pu dire ça sur les séries dans les années 60.
Et c'est pour ça que j'ai pas parlé de séries, j'ai parlé
non,
des
non,
documentaires.
Non mais je te dis, si tu réfléchis à la logique. Les gens font ça juste pour remplir de l'espace. Attends, remplir de l'espace. On s'en fiche, c'est pas parce qu'on va les améliorer qu'ils vont s'en rendre compte. C'est pas parce que de toute façon ça va jamais être édité en DVD, c'est juste et destiné à vivre qu'une seule fois. Et de toute façon, c'est pas un produit d'appel. C'est littéralement ce que les séries étaient jusqu'à que pas les prods, pas les diffuseurs, mais les gamins qui grandissaient en regardant ces séries et envie d'en écrire d'autres, des plus compliqués, des plus trucs. Et c'est devenu un art parce que les gens se sont passionnés pour ce truc qui n'était pas censé intéresser les gens. Donc je pense qu'en réalité, peut-être pas au niveau des chaînes, mais au niveau des gens qui regardent, au niveau des gens qui vont créer des documentaires, au niveau des gens qui vont écrire des livres, au niveau des gens qui regardent des documentaires, quelle que soit la taille de ton produit, son ambition a un effet sur les gens. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, mais là l'ambition, et si tu veux que ce soit l'ambition, l'exécution et la probable réaction, enfin je souhaite le meilleur, sur la petite promotion qu'ils feront et sur la diffusion estivale de cette série-là. Voilà, moi je leur souhaite le meilleur. mais je pense que de toute manière la réaction va être si tu veux très niche. Et là encore, je trouve it's fine parce que ça existe en fait.
C'est mais très, je suis complètement d'accord avec toi. Et je suis heureuse que ça existe et je suis heureuse que Charlotte ait eu l'occasion de le faire. Parce que quelque part, effectivement, je pense que vraiment, je continue à le dire, hein, je pense qu'il n'y a vraiment que des Français pour faire ça. Et ça fait partie de nos qualités, ça fait partie de l'apport qu'on a dans la conversation culturelle mondiale. On ne se pose pas les mêmes questions que les autres, et du coup, c'est bien qu'on pose ces questions-là.
Parce que le même documentaire produit aux États-Unis aurait eu des extraits, mais aurait eu une visée promotionnelle. Parce que dès le moment où des studios, comme les studios de production de Mad Men ou des choses comme ça, ils le changent forcément, si tu veux, en making-of à la gloire de
oui,
la série.
En même temps, aux États-Unis, ça prend d'autres formes. Il y a des tonnes de podcasts qui sont faits par des gens où ce n'est pas du tout en vue promotionnelle, où juste ils disent ce qu'ils pensent. Ouais. Les scénaristes surtout, mais pas seulement.
Documentaire télé.
Oui, non, mais une fois de plus, je pense que c'est dommage de se limiter à cause du genre et de la catégorie dans ta réflexion. C'est ça que je veux dire. Et je pense que dans la réflexion des gens, après, tu vois, tu sais pas ce qu'elle a essayé de faire, ce qu'elle a pu faire, ce qu'elle a pas pu faire, ce qu'ils ont pu faire au niveau de la prod. Maintenant, je pense qu'à un moment, c'est quand même faire, en plus de tous les trucs qu'on dit, de rappeler, par rapport à mon standard d'excellence, c'est là où ça se place. S'il n'empêche pas que je suis contente que ça existe, que je suis contente de les regarder, que j'ai envie de tous les voir, que tout ça, les deux ne sont pas incompatibles, au contraire. Voilà. Du coup, ça fait 20 minutes qu'on en parle, donc du coup, je crois qu'on va s'arrêter là. J'irai peut-être te demander de parler d'autres choses ces jours prochains. Et toi, en plus, de toute façon, t'es sur Embargo, c'est ça? Tu peux me dire exactement, juste nous raconter ce que tu fais à Série Mania cette année ?
Actuellement, donc, à Série Mania, je fais ce que je fais tous les années, c'est-à-dire je troll professionnellement les gens dans la vraie vie. Et donc, pour l'instant, ça...
C'est totalement fou, il est adorable.
Voilà, c'est des réactions différentes. Et je suis aussi jury de l'association de critiques de séries. Qu'est-ce que l'association de critiques séries ? Eh bien, c'est une association qui réunit des critiques de séries, comme son nom l'indique. Et cette année, c'est la première édition de Série Mania où on a un jury, rien qu'à nous, donc notre petit précaré, notre petit territoire, et on va remettre un prix qui est le prix découverte de la série qui est la plus innovante. On va avoir encore plus de choses à faire que probablement les autres jurys, puisque on ratisse extrêmement large, et donc on ratisse sur à peu près la moitié des 90 séries qui sont programmées. Donc ça peut être ce qui veut dire que jusqu'à samedi soir, c'est-à-dire l'annonce de notre prix découverte, je suis sous le devoir de réserve, et donc je ne peux pas parler des multiples séries du panorama international de la compétition, dont en gros la grosse majorité de ce que je vois.
D'accord, donc tu peux parler que des saisons 2 en fait.
Je peux parler des saisons 2, je peux parler aussi de... je peux parler aussi de des rencontres, et je peux parler des séances cultes. Voilà.
D'accord. Ok, écoute, merci Florian, on reviendra peut-être te voir pour s'il y a un autre truc dont tu peux parler.
Volontiers, à plus.
À plus. Maintenant, je suis dans les rues de Paris parce que j'ai décidé carrément de sortir des murs de Série Mania pour suivre des blogueurs qui font des trucs intéressants. Je suis donc avec, j'ai complètement squatté, comme on dit, j'ai tapé l'incruste auprès de Guillaume Nicolas et d'Élodie, dont le nom de famille ressemble au mien et je n'arrive pas à le prononcer. Vas-y.
Lefkovitch.
C'est simple pourtant, ça finit comme le mien et je ne sais pas pourquoi je bloque. Élodie Lefkovitch. Donc. Alors je voulais vous demander, vu qu'on marchait, je voulais rentabiliser le temps et vous demander des trucs intéressants. Vous venez de voir fin de série. Alors Guillaume Nicolas, toi tu peux pas en parler parce que t'as besoin d'écrire ta critique.
Je vais vaguement en parler si...
Mais donc Élodie, tu commences ?
Je commence. J'ai trouvé que c'était un...
Alors déjà c'est un documentaire de...
Alors comme le nom l'indique, ça parle des fins de série.
Et c'est, un
documentaire de Olivier Joyard.
Des Arocs, célèbre plume des Arocs.
Et donc dans ce documentaire qui sera diffusé, qui est diffusé ce soir sur Canal Plus Série et je sais plus en juin Bonjour. Sur Canal Plus, donc nous parle de la fin de série, comment les publics la vivent, mais comment aussi les créateurs des séries ont écrit leur fin de série, ont vécu la fin de série. Ceux qui ont eu des bons retours, ceux qui ont eu des moins bons retours et qui ont vécu vraiment un bashing sur les réseaux sociaux, entre autres. Mais j'ai appris que ce n'était pas le seul. Apparemment, le créateur du prisonnier, lui, a vécu quelque chose d'encore plus horrible. Il s'est isolé pendant 2 semaines, au milieu de nulle part, parce que sortir dans la rue était dangereux pour lui.
Mais David Chase, il est parti en Europe aussi, en vacances, le lendemain de la diffusion, non ?
Des Sopranos, ils l'ont pas précisé dans le documentaire, mais voilà, lui aussi fait partie du top 3 des séries dont la fin a fait polémique.
Et alors, ce documentaire ?
Eh bien, ce documentaire était très intéressant parce que, justement, on a plusieurs points de vue sur la fin des séries.
On s'est perdu sur le chemin, là, donc on était... Et vous entendez la circulation, vous savez qu'on est vraiment en live. Ouh, le bruit du bus, c'est très désagréable. Et la personne à côté de moi vient de se demander pourquoi je parle plus fort. Vas-y.
Non, franchement, c'était hyper intéressant d'avoir des points de vue différents et d'aborder surtout de façon différente les fins de série. C'est-à-dire les fins qui, en effet, ont marché, comme Breaking Bad ou Six Feet Under, qui sont reconnues par tout le monde. Et au contraire, des séries qui ont fait plus polémique, comme Les Sopranos, Le Prisonnier, donc, et Lost, évidemment. Voilà, c'était sympa d'avoir quand même pas mal de points de vue là-dessus.
Il y a des auteurs du coup qui parlent.
T'as du public, mais t'as aussi surtout les créateurs eux-mêmes de séries. C'est assez spoiler parce qu'on voit quand même des extraits de. Voilà, il y a quand même plusieurs fins de séries qui sont spoilées, donc faites attention. On a aussi la vie d'étudiants, donc le regard d'étudiants qui étudient le cinéma et les séries d'ailleurs, je pense. Qui, voilà, leur point de vue sur la fin de série comme Dexter ou I Met Your Mother.
Ah oui, encore des fins polémiques.
Des fins polémiques aussi. Enfin, Dexter, ils ont quand même réussi à trouver la seule personne sur Terre qui a aimé la fin de Dexter. Donc, félicitations.
Olivier Joyard, gros travail de recherche.
Voilà. J'ai trouvé ça très intéressant dans l'ensemble. Je trouve que ça manque de quelques petits trucs, si vraiment pour chipoter. Je dirais que ça manque peut-être un point de vue des séries qui ont duré trop longtemps et qui auraient peut-être dû se terminer avant et qui finalement se terminent un peu dans l'ignorance et tout ça. On n'a pas parlé de ce genre de fin qui...
Et dont plus personne ne parle.
Voilà, donc c'est bien dommage que des fois, il y a certaines séries où on aurait pu en parler. Après, je pense que c'est... Voilà, Olivier Joyard a parlé des séries qu'il aimait bien. Et bon, c'est très bien parce que c'est son documentaire. Mais c'est dommage de ne pas avoir exploré un peu plus d'autres séries. On a eu beaucoup, on a abordé énormément de séries, mais des séries quand même qu'on peut appeler haut de gamme. Et je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir exploré des séries que peut-être, qui étaient moins des séries niche, peut-être plus grand public, je sais pas. On a abordé Buffy, mais genre...
C'était la question que je voulais poser. Est-ce qu'il parle de Buffy ?
Il parle de Buffy, mais franchement, 10 secondes, quoi.
Et il dit quoi ?
Juste, il nous a montré la toute dernière scène.
Et il a dit, mais en disant c'est bien, ça a plu aux gens ou ça a déstabilisé ou c'est polémique ?
Il n'y avait pas vraiment d'avis, je pense.
Non, il n'y avait pas d'avis. J'ai du mal à recontextualiser le moment où il parle de Buffy exactement. C'est juste partie des séries qui s'éteint parce qu'il y a quand même une approche un peu. Il y a une approche.
Ouais. De l'autre côté, on voit comme ça. Comme ça va être moins agressif. D'accord. Le bruit de la circulation.
Il y a une approche à la fois très analytique du documentaire où on va donner la parole. Aux auteurs, savoir comment, dans quel état d'esprit ils sont quand ils écrivent le dernier épisode, quels sont les problèmes inhérents à l'écriture d'un dernier épisode. Et en même temps, il y a aussi un côté un peu philosophico-politique dans le genre, dans cette façon d'avoir à justement lâcher une aventure sur laquelle on s'est impliqué émotionnellement sur 5, 6, 7 ans. Et il y a les interventions de Pacôme Thielman, par exemple, d'un psychanalyste dont j'ai oublié le nom, qui justement refont ce travail d'analyse sur cette appréhension qu'on a, comme on peut être vécu comme une rupture, voire comme une mort.
Oui, ça, comme du deuil.
Comme du deuil. Et il y avait ce côté-là qui était aussi intéressant à traiter, pas seulement sur des faits, mais plus sur le sentiment, sur l'appréhension. Et le documentaire est assez rigolo dans son introduction, parce qu'il reprend des vidéos YouTube d'une pratique que je connaissais pas. Ce sont des gens qui se filment regarder le dernier épisode de leur série plus ou moins préférée.
C'est assez drôle.
C'est très drôle, forcément. C'est un peu douloureux quand on voit ça. Enfin, eux, ils le vivent de façon très douloureuse, mais nous, on rigole beaucoup. Mais donc voilà. Non, c'est un très bon documentaire. Effectivement, il n'y a pas de surprise dans les séries qui sont traitées, parce qu'effectivement, on va parler des Sopranos, effectivement, on va parler de Lost, on va parler de Dexter. Enfin, c'est des séries dont les fins ont marqué, J'étais content qu'on parle du prisonnier parce qu'effectivement, le pauvre Patrick McGowan s'est quand même fait lyncher à la fin des prisonniers.
C'est pas l'auteur, c'est l'acteur.
Bah, c'est aussi l'auteur. C'est lui qui a créé la série.
Alors là, je viens de prouver que je ne mérite absolument pas de faire un podcast sur les séries. Vas-y, continue.
Donc voilà, non, j'étais assez content. Il a, en plus, il spoilait pas sur la fin du prisonnier puisqu'il a arrêté l'image avant qu'on démasque numéro 1.
D'accord. Bon bah c'est cool, vu que là on est encore en train de marcher, on va peut-être faire sur le chemin du retour du magasin où on va peut-être en rester plus, mais en tout cas merci beaucoup pour avoir fait ce retour de ce documentaire que j'ai raté parce que j'étais en retard. Je continue mon voyage touristique sériephile de la journée en demandant à des gens de me parler des trucs que j'ai pas vus ou de me dire des trucs, parce que moi j'ai rien vu aujourd'hui, c'est la journée 5, c'est journée école buissonnière. Et mon ami, mon twin, mon petit frère adoptif, mon grand frère adoptif, des fois je sais plus trop, et ben il est passé par le forum des images et donc j'ai décidé de l'alpaguer et il va me parler d'une série qu'il a vue il y a quelques jours. On a déjà dit bonjour David.
Salut Yael et bonjour aux gens qui nous écoutent. C'est mon premier podcast, alors excusez-moi si vous avez l'impression que je bafouille. Je vais essayer de parler clairement et lisiblement.
Ouais, bien, c'est moi qui parle à côté, j'avale mes mots. Donc... Mais tu déconnes, on a fait des podcasts à l'époque d'Ultima, tu te rappelles pas?
Oui, si, on a fait.
On a parlé de The Vampire Diaries. Non, on a fait au moins 3.
Ah bon?
Enfin, je les retrouve. Ce seraient les épisodes perdus.
Ça, on peut vous les compiler et vous faire un flashback.
David, Yael et un peu Juliette. Non, je crois
Juliette
qu'elle
ici,
elle parlait.
Oui, elle parlait beaucoup.
Parle. D'accord. Donc en gros, ouais, ton frère les retrouve. On parlait de True Blood, de Vampire Diaries et compagnie. C'était assez rigolo. Alors, du coup, là, t'as vu un truc l'autre jour. T'as vu quoi?
Ouais, c'était samedi. J'ai vu When We Rise grâce à Juliette, justement, dont on vient de parler à l'instant, qui m'a dit je vais voir When We Rise au Forum des Images, à Série Mania. Je fais, ah, mais il y a When We Rise, je voulais le voir. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion de découvrir le pilote sur grand écran. Et c'était effectivement une bonne occasion parce que le pilote est, donc, qui a été réalisé pour ABC, qui a été diffusé au mois de décembre, tout en une semaine. Ils ont diffusé 2 épisodes tous les soirs pendant une semaine, donc l'intégralité de la saison, puisqu'en tout il y a 8 épisodes ou 4 téléfilms selon l'interprétation des gens. Le premier épisode a été réalisé par Gus Van Sant, donc, l'auteur de Elephant, l'auteur de Harvey Milk, le réalisateur d'Harvey Milk, et justement...
Good Will Hunting.
Oui, aussi, qui s'appelle en français...
Will Hunting
tout court, oui, c'est ça. Et qui est en fait l'auteur de la série, le showrunner, c'est Dustin Lance Black, qui était l'auteur aussi scénariste d'Harvey Milk.
Absolument,
et qui a été oscarisé pour ça.
Ah oui, je me souviens de son speech, son très beau speech. Ouais.
Et en fait, alors il y a une bonne et une mauvaise surprise. La très bonne surprise, c'est que, alors je ne le savais absolument pas, je suis arrivé dans la salle, c'était la cerise sur le gâteau, c'est que Dustin Lance Black est venu. En fait, il y a un journaliste, Romain Burel, qui travaille pour Tétu, qui l'a tweeté en disant « On va diffuser When We Rise, est-ce que tu veux venir ?» Et là où il n'a pas réussi à l'atteindre via ses agents, hein, comme quoi, il a réussi via Twitter. Merci Twitter.
Mais il habite où? Il est aux États-Unis?
Non, il habite avec son chéri, avec son compagnon qui est un champion olympique de plongée, qui s'appelle Tom Daly, que je vous invite à googler, qui est fort charmant.
Je vous invite à googler immédiatement.
Et qui est anglais. Qui habite à Londres.
Et donc, Dustin Lance Black a bondi à Londres et il a vu le tweet et il a dit « Je prends le train pour Paris ».
Exactement, je prends le Eurostar et j'arrive.
Oh, et c'est le jour même ou c'était la veille ou c'était...
Oui, apparemment, enfin, non, ça a été prévu quelques jours avant, mais à peine, puisque c'est pas dans le programme, ça n'a pas été du tout annoncé, à part le matin même où ils ont dit « Venez au Forum des Images, venez à Cerimania ».
Du coup, il a parlé avec le public à la fin?
Du coup, déjà, il a présenté effectivement la séance au début. Et en fait, la mauvaise nouvelle, c'est transformée en bonne nouvelle, c'est qu'au lieu d'avoir le pilote complet, les 2 parties d'une heure et demie de Gus Van Sant, c'est avec la partie 1.
Donc, effectivement, ah oui, ça, j'ai entendu dire ça par quelqu'un.
Donc,
ouais.
Ça m'a paru très court, effectivement. Ce que j'entends dire, Juliette, je fais, mais ça fait pas une heure et demie, ça fait même pas 40 minutes. Mais l'intérêt, c'est que ça nous a permis de passer, une demi-heure avec Dustin Lance Black, avec le showrunner, on a passé une heure et demie. Donc,
Du coup, vous avez fait toute la fin de la séance jusqu'à tout ce qui était évoqué avec lui.
Exactement.
Putain, bon. Ah, je suis dégoûtée du coup, parce que moi j'étais là, ça n'a aucun intérêt d'aller le voir ici, je vais jamais voir les trucs anglophones. Enfin, après, je dis ça, en fait, la fois que j'ai dit ça, j'ai réalisé que j'en avais vu que 3, mais en 4 jours, tu vois, j'étais là, finalement, j'ai beaucoup de trucs anglophones. Parce que je vais voir Click et Seven Types of Ambiguity, mais en réalité, généralement, je les évite. À part si c'est...
Oui, pour privilégier les titres voilà. plus exotiques qu'on devrait nulle part ailleurs.
C'est ça. Donc après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de... Enfin, moi, je me disais dans un podcast plus tôt, il y a beaucoup de formats mini-séries, je trouve. Et du coup, c'est horrible parce que tu peux... T'as jamais le sentiment de satisfaction. T'as l'impression que tu sors d'un visionnage où ils t'ont installé un univers et tu dis, mais... L'année dernière, on a regardé ça, on a regardé un truc... C'est l'année dernière ou l'année d'avant, un truc... Indo-chinois ? Oui, c'est ça. Un truc qui venait d'Indonésie. Non, pas Indochine, l'Indochine, c'est des... Oh là là. Et en plus, je coupe pas ces trucs-là. Donc, un truc d'Indonésie.
C'est ta journée de repos. C'est,
ah, c'est ça. Et donc, un truc d'Indonésie, tout à l'heure, j'ai dit, mais c'est qui le créateur de Prisonnier ? Parce que Patrick McGowan, c'est juste son acteur. Et on me dit, bah oui, c'est aussi le créateur. Je fais, ah oui, c'est vrai. Genre, ok, le Prisonnier, c'est le truc à peine culte, mais c'est épique. Et donc, oui, le truc indonésien, on aurait voulu voir la suite, mais... Laisse béton quoi. Et donc là c'est pareil. Ouais,
l'an dernier, moi j'avais vu The Family Lilo au marathon comédie et ça a été très compliqué, mais alors que c'est quand même un truc australien de trouver la suite. Ça, j'étais content de le trouver et c'était très agréable. Et j'ai terminé la série que je conseille, qui m'a beaucoup plu, qui ressemble un peu à ce que les Américains ont fait avec The Real O'Neills, mais je pense
en
un peu mieux.
Bah, en fait, c'est rigolo parce que c'est entre The Real O'Neills et l'autre série de la même chaîne aux États-Unis qui est.
C'est toujours ABC en fait.
Fresh off the Boat, où c'est une famille asiatique. Mmh. Et d'ailleurs que j'ai mon pote jamaïcain adore parce qu'il dit que c'est la seule série qui parle vraiment des blancs comme des blancs en disant les blancs ils font ça, les blancs ils font ça, et c'est agréable une série qui ose le dire. J'étais là ok, mon pote jamaïcain blague. J'ai décidé que j'allais arrêter d'utiliser le blague, j'ai découvert que c'était le mot politiquement correct, mais je veux pas y toucher, donc on dit noir. Généralement, je ne vais pas voir les trucs anglophones, mais cette année, je me dis que je vais arrêter de me briser le cœur en regardant des trucs. Mais The Family Law, mon petit frère, il avait adoré aussi, et du coup, j'avais trouvé aussi les épisodes pour qu'il puisse regarder la suite. Et donc, alors, When We Rise, sans trop me spoiler, contenu, bah, machin, puis
spoiler,
la rencontre avec
Dustin. Spoiler, c'est pas forcément facile, ni pas facile, dans le sens où c'est l'histoire, donc en fait, t'as pas vraiment. Enfin, c'est l'histoire.
Tu veux dire comme la fois où je t'ai spoilé sur.
Exactement, sur The Little Tudors.
Sur le fait que Henri VIII avait tendance à couper la tête aux yeux.
Exactement.
Et là, désolée, c'est... David. Mais t'es sûr qu'il
pendant un
la
massage,
tête
d'ailleurs, je
t'ai dit. Ouais, c'est ça, je faisais un massage à David, il avait mal au dos. J'ai un massage. Et il me parlait des Tudors et je dis, mais il a pas encore. Mais il a coupé, c'est celui qui a coupé la tête de ses femmes. Et il me fait, non, pas du tout. Et du coup, je fais, mais il n'y a pas une nana qui s'appelle Anne ? Et il me fait, si, Anne Boleyn, mais c'est la femme qu'il aime. Et j'étais là, ah oui.
Elle avait encore la tête sur les épaules.
Et du coup.
J'aime beaucoup Nathalie Dormer, c'est triste de l'avoir la tête coupée.
Et du coup, c'est vrai que c'est rigolo qu'après, tu m'as envoyé à 3h du mat quelques jours plus tard. Spoiler ! Il lui a coupé la tête. Enfin bon, et donc pardon.
Là, c'est le mouvement, voilà, c'est sur le mouvement américain, c'est très centré sur, enfin, c'est que ça en fait, le mouvement américain de lutte des homosexuels, qui ça commence dans les années 70 et ça se termine maintenant. Et c'est vraiment quelques personnages comme ça qui ont vécu au centre de la lutte pour les droits LGBT aux États-Unis. Et bah le pilote, déjà, ce qui est génial en voyant sur grand écran, peut-être le regret de pas avoir vu les deux épisodes, c'est que le premier épisode c'est Gus Van Sant et qu'il l'a réalisé comme il réalisera un film. Tu sens pas du tout, t'as pas de sensation télé. C'est très agréable la réalisation. T'as vraiment quelque chose en termes d'esthétique. Tu retrouves sa façon de filmer, tu retrouves cette espèce de déambulation des personnages qui se cherchent, qui sont un petit peu bousculés par des gens qui veulent pas d'eux, parce qu'ils sont gays, bi, lesbiennes, trans, et qu'en fait ils se retrouvent tous à être bousculés, à être très très seuls. Et en fait, le pilote, c'est vraiment la création petit à petit que ces gens, ils vont. Cette communauté d'un seul coup est obligée de se retrouver dans un Eldorado gay qui en fait ne l'est plus, mais c'est la sensation qu'ils ont de loin qui est San Francisco. Et que voilà, et clairement à la fin du pilote, tu sens que voilà, ils se retrouvent tous à San Francisco, mais ils ne sont pas encore croisés, et c'est comme ça que ça se termine, et tu te dis. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est ça, mais bon, c'est merveilleusement bien écrit, c'est très juste. En plus, surtout les 4 premiers épisodes, ça manque un peu après, mais ce que j'ai évidemment continué, j'ai profité du week-end de Pâques pour me faire l'intégralité de la saison.
D'accord, donc t'as tout vu, d'accord.
Mais le pilote, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'un côté la lutte pour les droits gays, lesbiens, LGBT, dans leur globalité, mais t'as aussi pour les droits des femmes, qui étaient en parallèle et qui fonctionnaient.
C'est ça,
il y a
une connexion entre.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'au début, c'est un offshoot du premier du mouvement des femmes qui s'est rebellée contre le mouvement proteste de gauche qui les maltraitait, où du coup elles ont fait une scission. Et du coup, ça, c'est une scission aussi de
c'est
la.
Ça.
Parce qu'il n'y a que les femmes qui s'intéressaient aux droits gays au début. Ouais, absolument.
Et donc, ça fonctionne vraiment bien. Les acteurs, enfin, la mise en scène est très très juste. Les acteurs sont très bons. c'est étonnant pour de la télé, c'est étonnant pour ABC. Tu imagines très bien la série sur HBO, vraiment, j'imagine limite le qu'on va de HBO sur le logo au début.
HBO, je trouve que c'est beaucoup plus propre sur soi finalement et pas très engagé. Du coup, je verrais plus ça sur Amazon, tu vois, par exemple. Moi, je sais pas pourquoi dans ma tête, c'est Amazon.
Et donc voilà, mais sinon, ouais, non, à la fin du pilote, avec une seule envie, c'est de continuer. Après, mon regret de l'avoir vu chez moi, c'est que c'était génial de le partager avec une salle qui était pleine à craquer. Et c'était des gens qui comprenaient ce qu'ils voyaient, qui ressentaient ce qu'ils voyaient, qui étaient là avec une empathie et une connivence qu'il n'y a pas forcément. Et les gens riaient tous ensemble, étaient tristes tous ensemble, s'agaçaient tous ensemble. Et c'est quelque chose qu'on n'a évidemment pas soit seul chez soi. Et ça, c'est une vidéo qui parle d'une communauté et qu'on a envie de vivre
en communauté. Et c'est du coup, et la Lord Dustin, qu'est-ce qu'il a raconté?
Plein de choses passionnantes. Ce qui était intéressant déjà dans sa façon de parler, c'était court, c'était précis, c'était efficace, c'était passionné. Bon, et on avait l'impression qu'il était en train lui-même d'essayer de monter un mouvement. C'est-à-dire qu'il était en train lui-même de vouloir mener toute la salle à lutter pour les droits LGBT, principalement eux, depuis quelques mois qu'ils ont un président très sympathique.
Oui, parce que nous, d'ici une semaine, ça sera vachement mieux.
Suspense à suivre, to be continued. On va croiser les doigts.
Hashtag tout va bien. Jusqu'ici tout va bien.
Mais donc voilà, donc lui évidemment.
Allez voter tout de suite. Enfin, pas tout de suite parce que c'est pas encore prévu. Enfin,
ça dépend pour qui vous votez.
Non. Allez voter en vous posant des questions sur le bien du plus grand nombre.
Bah, justement, voilà. J'ai vu un tweet tout à l'heure, quelqu'un qui disait j'ai vu When We Rise et j'allais voter pour François Fillon et je n'ai plus envie de voter pour François Fillon. Ouais, c'est ça, assez intéressant et assez passionnant.
Ah bah, alors, on est en train d'enregistrer, ma chérie, mais par contre, je te présente Kirby, Lady Teruki, dont j'ai dû te parler un milliard de fois, mon twin David, dont j'ai dû parler, ou en tout cas, tu peut-être que sur Twitter et tout ça. C'est lui qui a commencé les conventions de fans en France, et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à être traductrice et ma vie geek officielle, out of the closet, et ça sera dans le podcast aussi, a été entièrement déclenchée par lui. Il est en train de me parler de When We Rise. Tu l'as vu toi? D'accord. Bon.
À voir. Et donc non, c'était ça, c'était avec une. À un moment donné, il a carrément les larmes aux yeux. C'était en parlant du mouvement, en parlant de la naissance du mouvement, en disant, en gros, oui, les jeunes, vous êtes dans un confort, mais un confort qu'on s'est battu pour avoir, et il est peut-être temps aussi de se réveiller, de se rendre compte que quoi qu'il arrive, la lutte est encore extrêmement active, qu'il faut pas se reposer sur ses lauriers quand on voit ce qui se passe en Tchétchénie et autres. Et qu'il est temps de continuer à agir et de pas être totalement, sans mauvais jeu de mots, passif face aux événements.
Non, mais c'est surtout, ce ne sont pas des acquis. Ce sont des acquis qu'il faut continuer à alimenter et à faire vivre.
Mais ça, il a présenté ça avec énormément de passion, énormément d'envie. Il avait l'air très au courant de ce qu'il disait. Il était... On sentait que voilà que la série, il a passé 4 ans à l'écrire, 4 ans à être à se renseigner, à écouter des gens parler ces événements-là, à avoir les vraies personnes avec les témoignages. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a dit, qu'aucun des témoignages se ressemblait en fait. Les gens ont vécu les événements, mais pas du tout de la même façon. Ce qui fait que pour lui, il me disait, je suis devenu fou, je ne sais pas comment les écrire. Et il s'est rendu compte que c'était plus finalement pour vous de sensations, d'un parcours, d'un moment, d'une humanité, que finalement la justesse
ce qui s'est passé, tel historique, jour à tel c'est ça. Endroit,
ouais. Parce que finalement, il se rendait compte que même en coupant des événements de gens qui avaient été au même endroit à la même période et qui étaient amis, qui pouvaient même en parler entre eux, il les regroupait pas, il n'avait pas la narration n'était pas la même en fait.
Oui, ils n'avaient pas la même version de la réalité.
Et il disait qu'il avait eu beaucoup de chance de faire ça sur ABC parce qu'il voulait confronter un public qui n'est pas un public acquis à la cause, à ce mouvement-là.
Bien que ABC soit de toutes
évidemment,
les chaînes.
Évidemment, la chaîne féministe et gay-friendly. Ouais. Mais il dit voilà qu'à la tête d'ABC maintenant il y a une femme noire, ce que je savais pas, ce que j'ignorais.
Si, depuis un an et quelques.
Et que ça va évidemment beaucoup aider à porter la série. Que le seul combat qu'il avait eu, parce que moi j'ai posé une question, j'en ai profité, j'ai dit est-ce que vous avez justement dû lutter? Est-ce que dès le premier épisode il y a des baisers gays à l'écran, il y a du sexe? C'est évidemment très, très aseptisé, mais enfin c'est quand même présent. Est-ce que vous avez dû vous battre pour ça? Il a dit non. Pour ça, il n'y a aucun problème, ça s'est fait très naturellement. La seule chose pour laquelle on a dû se battre, c'est pour un mot, le mot fagotte, pédale, que la chaîne, qu'une chaîne grand public comme ABC n'a pas le droit de diffuser. Et moi, j'ai dit, moi, je ne peux pas ne pas utiliser les insultes que les homos ont reçues à cette période-là et à toutes les périodes. Et ce mot particulièrement utilisé par les mouvements homophobes, je voulais l'utiliser. Elle m'a dit, la patronne, la chef d'ABC s'est battue pour qu'on utilise ce mot, en fait, qu'on ait l'autorisation de l'utiliser. Mais voilà, en gros, une grande liberté. effectivement, on sent qu'il a pu raconter ce qu'il voulait. Il a dit que voilà, Carl Svensson, c'était là aussi génial, que lui Svensson n'a pas du tout influencé sur quoi que ce soit. Il aime bien qu'on arrive avec un produit fini et qu'on le filme avec le film directement. Et vraiment, c'était une belle expérience de 45 minutes. Et Dustin Lanzmann qui était passionné. En plus, il nous a dit que son fiancé était au fond de la salle. Donc, je suis très content. Mon côté fan, un peu gossip boy. Gay a pu satisfaire. Je crois qu'une photo du couple un peu poster boy, comment on dit, live goal, le scénariste oscarisé américain de tout un tas de films et de séries qui valent le coup, et le champion olympique de 20 ans, absolument adorable. Et voilà, donc bon, ils sont fiancés, on va espérer qu'on leur souhaite beaucoup de bonheur, mais voilà, donc c'était une très belle expérience, aussi bien au niveau de ce qu'ils ont dit, de ce que ça représentait, de la série qui est vraiment réussie. J'ai vu le reste de la série, je vais pas spoiler, mais il y a un changement de casting évidemment, parce que les personnages vieillissent, ils changent après l'épisode 4. Et je trouve le casting de jeunes beaucoup plus juste et beaucoup plus impliqué que le casting de stars, parce que c'est des stars qui jouent les rôles des adultes. C'est Mary Louise Parker de Weeds, c'est Rachel Griffiths de Six Feet Under et de.
Spoiler toute la surprise de.
Et de la série d'ABC justement.
Frozen Sisters.
C'est. Il y a Guy Pearce, Guy Pearce. Et voilà, et je trouve que bon, la deuxième partie, peut-être aussi, ça manque peut-être plus de recul. La deuxième partie est très forte. J'ai versé ma petite larme à la fin, mais ça m'a paru moins organique que les quatre premiers épisodes. Et il y a Whoopi Goldberg aussi, qu'on voit très peu, mais qui est génial.
J'adore Whoopi Goldberg. Qu'est-ce que je voulais te dire, juste par rapport au mot faggot, est-ce que tu as déjà regardé des épisodes de Louis?
Non.
Donc moi j'ai regardé le pilote de Louis que j'ai pas du tout aimé, j'ai mis de côté, et puis très longtemps plus tard j'ai essayé de revoir, et donc je suis passée directement à l'épisode 2. Et un des trucs de Louis, surtout dans les premières saisons, mais en général il n'y a pas du tout de structure d'épisode classique, c'est-à-dire que tu as des épisodes où tu as des histoires de 4 minutes, puis une autre histoire de 5 minutes, puis le truc c'est deux, des fois tu as deux histoires, du coup les titres c'est souvent un titre, un slash, un autre titre, puis ensuite dans la saison 5 je crois qu'il y a un truc, c'est une soirée, c'est sur 5 épisodes, enfin, tu vois, il a déstructuré complètement la formule série. Et du coup, dans le deuxième épisode, le premier segment, il me semble, ça fait 8 minutes. Je t'ai peut-être montré, du coup, j'ai l'impression, parce que je me rappelle l'avoir vu dans les bureaux de Scorpio à l'époque. Et c'est une partie de poker entre des comiques, dont un gay. Et en fait, au début, ça commence, ils s'insultent de tout sur plein de trucs et tout. Et à un moment, le mot faggot arrive et il y en a un qui explique ce que ça veut dire, d'où ça vient et de ce que ça veut dire. Et en fait, en disant non, mais je te dis ça juste pour que tu saches, quoi. Je suis pas en train de. Je comprends pourquoi tu l'as dit, comment tu l'as dit et tout. Juste maintenant, quand tu l'utiliseras, tu sauras ce que ça veut dire. Et en fait, ça vient des fagots avec lesquels on brûlait les homosexuels. Et du coup, mais cette scène, la façon dont elle est filmée, la façon dont elle est jouée, la façon dont tous les gens. L'honnêteté crue avec laquelle cette scène est faite et l'intelligence de cette scène m'a toujours. Chaque fois que j'entends ce mot, j'ai juste envie de la montrer. Et donc, je t'invite un jour à découvrir. Parce que moi, c'est vraiment ça qui m'a fait comprendre Louis, en fait. J'ai fait OK. Mais par contre, il faut la regarder en entier, quoi. C'est-à-dire qu'au début de la scène, pendant 5 minutes, tu fais qu'est-ce que je regarde? Et puis après, au bout, tu fais Ah ouais, d'accord. Donc en fait, il est en train de. Ouais, d'accord, OK. C'est de ce que j'ai inventé un mot il y a quelques temps qui s'appelle philopopie. Et donc, c'est de la philopopie, Louis. Bon bah merci beaucoup.
Écoute, je t'en prie.
C'était un plaisir de t'avoir dans le podcast.
J'ai pas vu grand-chose.
Ça me donne envie de faire des podcasts avec toi tout le temps. C'est hyper grave de t'écouter. Donc j'espère que ça vous a plu aussi.
J'ai pas vu beaucoup de choses à Cerimania. La prochaine chose que je vois, j'espère que ce sera bien parce que je suis assez exigeant et c'est une conférence sur Buffy, donc il y a intérêt à ce que les intervenantes.
Assure.
Ouais,
et bah écoute mon chéri,
c'est les 20 ans de Buffy, donc
tu nous diras après. Bah écoute, voilà, c'est tout pour maintenant. No, we couldn't die, and we know we couldn't fade, 'cause our names are not a grave. Alors,
on va parler de nourriture. On va parler de Thierry, c'est ça?
Je suis avec Aki.
Bonjour.
Je suis avec Aki. Je suis désolée, je l'ai dit un peu bizarrement.
Je suis avec un accent.
Et il y a toujours David qui est derrière et qui fait des bruits bizarres. Aki, t'as un truc Cerimania dont t'as envie de parler? Je te dirais si on en a déjà parlé ou même si on en a déjà parlé.
Moi, je peux parler de Fleabag, c'est vraiment genre un de mes coups de cœur.
Vas-y, moi je l'avais vu. Alors, moi j'ai vu cet été, mais j'ai vu que les trois premiers et je suis trop. J'ai vraiment eu un accès de dépression assez violent en 2016. Surtout, en plus, après, Trump m'a achevé, ouais. L'élection m'a achevé. Et j'ai vraiment eu une semaine de crise d'angoisse ambulante. Et ensuite, je commence un peu à aller mieux depuis janvier, mais je suis pas très stable.
Ouais, donc
et du coup,
il
y a des trucs que je peux pas regarder. Disons que des trucs que j'ai. Disons que je suis un peu frileuse et que j'attends le bon moment. Et bien sûr, puis j'ai toujours tellement de trucs en retard que du coup, voilà, c'est l'excès. Mais bon, après, il me reste que 3 épisodes.
Ça passe vite, 30 minutes, ça va.
Mais donc, toi, parle de Fleabag.
Bah, en fait, pareil, quand c'est sorti, j'étais pas trop dans le mood. Donc, une énième comédie noire, tu vois. Encore une crise existentielle, c'est bon quoi, on les a vu passer les crises existentielles, donc j'ai bon bah next, et en fait non pas next, vraiment là je l'ai vu, 3 épisodes, je suis rentrée chez moi, j'ai fait les 3 derniers, genre direct dans la soirée, c'était vraiment cool, et enfin je sais pas, mais je suis très une personne un peu premier degré, tu vois, genre je comprends pas trop le second degré, le fameux second degré. Du coup, l'humour britannique.
Pour toi, c'est une légende urbaine.
Ouais, c'est de l'humour ça, d'accord, ok. C'est bien.
Coucou Nicolas. Donc Nicolas Robert vient de passer. Ouais.
Je sais pas où il va.
C'est l'effet colonie de vacances. Hier, du coup, quand j'ai défini le podcast, j'ai dit à un groupe, j'ai dit dites au revoir et t'as au revoir. Et il y en a qui fait hop, genre tous en cœur.
Ouais, ok.
Et d'ailleurs, tu t'en faisais pas partie.
Si si. Si, si. Au revoir si. Mais j'ai dit au revoir. Et ça, moi, j'ai dit.
Okay. Ça sonne très très bien dans le podcast. De
ça, pourrait être ton au revoir de tous tes podcasts. Hein.
Pas mal, ah, c'est une bonne idée, concept. Et donc, Fleabag.
Ouais, et ouais, donc du coup j'ai fini. Et ouais, donc en fait, l'humour britannique ça marche super bien chez moi parce qu'en fait, il n'y a pas de second degré. Enfin, c'est pas de second degré quoi, c'est juste drôle.
J'adore le concept, vas-y.
Et c'est pour ça, Léorine aussi elle est géniale. Il y a un cochon d'Inde, franchement, son cochon d'Inde est trop mignon. J'ai envie de le gratter là, bref, pardon. Rien que pour ça, j'ai fait ok, c'est bon, je prends. Et puis ouais, mais tu sais, rien que dans le premier épisode, elle dit je suis une mauvaise féministe en fait, et j'ai trouvé ça super drôle. Parce qu'en fait, je trouve que ça reflète beaucoup la série, donc aucun regret.
Ouais, sauf que je suis pas d'accord que c'est une mauvaise féministe.
Mais non, bien sûr que non, ah ouais, pas du tout. Enfin, moi non plus, je suis pas tout d'accord, mais le fait qu'elle le dise, tu vois, et qu'elle le voit comme ça, ça perçoit déjà son.
Son point de vue.
Exactement, sa vision.
Ouais.
Donc, et ça, franchement, la série, elle est tout autour de ça, et c'est pas mal.
Que la fin est vraiment géniale en plus.
Oh putain, le twist de ouf.
Elodie qui revient avec entre temps ces Funko Pop qu'on allait acheter tout à l'heure. Ils ont été signés
dédicacés.
Par Damon Lindelof qui était par moment, hasard à côté d'elle. Et
par hasard, je suis sûre qu'elle a tout calculé. Hein, mais bon.
Non, mais il t'a écrit quoi? Tu peux nous dire ce qu'il t'a écrit sur tes trucs, Damon Lindelof? Attends, elle nous montre.
Du coup, sur des Funko Lost, hein, précisons quand même. Hein.
Funko Pop. Lost, Elodie, thanks for watching. Freckles!
Il était trop sympa, Lindelof.
Mais ça m'étonne pas du tout, ce type est adorable. Je déteste tout ce qu'il fait, mais
je l'adore.
C'est pas... Non, c'est pas vrai que j'aime pas Leftovers. J'ai pas très envie de regarder, mais je trouve ça. Tom, trust John Locke. C'est génial.
Voilà, non, il était vraiment.
Mais je pensais pas le troisième. Non, ah, c'est tout, il a signé les deux.
Je pensais qu'il était plus perché quand même. Hein.
Ah non, non, mais en fait, il a fait. À tout Elodie, merci pour tout à l'heure.
Regardez-le.
Et ouais, il a fait plusieurs podcasts que j'ai écoutés en fait. Il a été dans
Nerdist.
Ouais, bah parce que c'est une ressource énorme. Et c'est en plus, avant j'écoutais les podcasts amateurs américains de gens du coup de blogueurs, de trucs comme ça et tout. Et ensuite j'ai commencé à écouter les podcasts. De professionnels, parce qu'il y a toute une série de professionnels, j'appelle ça les podcasts éclairés, c'est des gens qui sont critiques, auteurs, professionnels d'un truc, et qui parlent de ce truc-là.
Ça se prend pas trop au sérieux, du coup ?
Bah non, justement, c'est le contraire, c'est tout d'un coup, c'est des gens intelligents, éduqués, qui sont sortis du carcan institutionnel, de l'article ou de l'émission de radio. Et donc, par exemple, je te conseille juste un podcast, voilà, je te fais un conseil, Pop Culture Happy Hour.
Ok.
Va chercher un épisode qui parle d'un truc qui t'intéresse. C'est les gens qui écrivent pour le blog de NPR, donc le Radio France américain. Et les gens qui écrivent pour NPR, et c'est Linda Holmes qui tient ça. Et il y a sinon le critique musique, un critique comique. Et maintenant, le quatrième, c'est toujours des gens qui tournent.
Ok.
Donc, ça, c'est génial. Sinon, dans le genre passionnant, il y a Code Switch.
Okay.
Donc du coup c'est une update du podcast que j'avais fait il y a un an et demi avec Dom où je disais mes podcasts préférés. Donc entre temps il y a un podcast qui s'appelle Code Switch, je crois que ça n'existait pas à l'époque, qui est
Pop culture toujours.
Non, enfin oui,
par extension, mais le code switching, c'est quand c'est en fait, c'est notamment pour les gens de doubles origines ou de doubles minorités qui switchent de code quand ils passent d'un à l'autre. Et Key & Peele notamment faisait beaucoup de blagues là-dessus. Ils ont beaucoup de sketchs sur le code switching, où quand ils sont avec des blancs, ils parlent comme des blancs, et quand ils sont avec des noirs, ils parlent comme des noirs. Et en gros, code switch, c'est que des gens qui bossaient pour NPR et qui sont de plusieurs ou d'une minorité machin, et qui parlent de la difficulté. Ou tu vois, par exemple, le Gene Demby, le principal, il est noir, et il est que noir, il me semble. Enfin, tu vois, il est pas gay en plus. Okay, enfin, parce qu'il y a vraiment un truc sur l'accumulation des minorités. Okay. Mais par exemple, il est NPR, il est bobo, intello, machin, et donc il y a quand même une forme de code switching dans sa vie. Et il y a une qui est à moitié, qui a un père musulman, une mère latina. Il y a tout un tas de trucs comme ça. Et il parle de sujets.
D'accord, donc de société.
De société, et ils en parlent de façon comme tous les trucs de NPR, les podcasts surtout de NPR, parce que NPR, les émissions sont sérieuses, mais les podcasts sont beaucoup plus détendus. D'accord. T'as l'impression en fait d'être tout le temps en train de boire un verre avec quelqu'un d'intelligent qui te raconte un truc et qui te raconte comme oh, t'as entendu parler de ce machin, parce qu'en fait, moi je me posais la question, machin. Et tout est comme ça chez NPR.
Est-ce que tu fais autre chose en écoutant tes podcasts ou pas ?
Ça dépend, je tricote beaucoup maintenant. Ouais. Je fais la vaisselle, je fais le ménage, je suis dans le train, je fais du vélo, ça dépend.
J'ai du mal à me concentrer en fait autant de temps.
Bah, c'est bien de quand t'es coincé dans les transports, par exemple, c'est vraiment parfait. Moi, je joue au sudoku en même temps. Okay. C'est ça mon truc. C'est parce que du coup, ça me focalise où je tricote. Ouais. Et en fait, le truc de. En plus, déjà, ils sont très drôles à écouter. Okay. Donc, tous les podcasts sont pas faciles à écouter. Bon, moi, j'aime bien penser que notre podcast est sympa à écouter, mais il est quand même un peu ardu à écouter parce qu'on parle très longtemps de plein de trucs. Voilà. Alors que eux, c'est des podcasts plus light, entre guillemets, ou plus passionnants. Code Switch, par exemple, un exemple, j'y pense parce que. Parce que un des trucs que j'aime bien, c'est qu'il parle aussi des Asiatiques américains, et pas juste, tu vois. Il parle aussi des Latinos, il parle aussi des musulmans, il parle de plein de trucs dont on parle moins souvent, tu vois. Et ils ont fait un épisode, celui qui m'a le plus marqué cet été, c'était comment une chinoise américaine essaye d'expliquer Black Lives Matter à son père.
Oh my god! Alors, sachant que les Chinois sont racistes, donc ah bordel, ok.
Et ça, c'est passionnant. C'est passionnant. Et en gros, c'est ce genre de truc qu'ils font.
Je suis en train de
l'imaginer.
Mais
c'est aussi Mohamed Ali vient de mourir. Quel type de représentation il était pour la communauté musulmane, pour la communauté noire, machin. Le dernier film, quand Moonlight est sorti, moi j'ai entendu parler de Moonlight bien avant. Bien sûr que j'ai pas écouté l'interview parce que je veux pas être spoilée, mais je savais que Moonlight allait être un film important parce que Gene Demby a fait. Oh, et en fait, leur podcast s'appelle Tout le monde veut parler à Barry Jenkins, mais notre interview est la meilleure. C'est le nom de l'épisode.
Il y avait pas de doute. Mais du coup, en tant que concernée. Ils avaient aimé le film.
Oui, oui, ils ont adoré, mais surtout c'était hyper intéressant la façon dont il en parlait. Enfin, la conversation avec Barry Jenkins, c'est vraiment génial. Et du coup, donc Code Switch par exemple, c'est typiquement un truc qui aurait moins de sens autre forme qu'un podcast. Et en fait, moi, c'est ça. Il y a tout un tas. Slate fait plein de podcasts intéressants où c'est tous les journalistes de Slate qui met du coup. Et du coup, très souvent, c'est pas du tout sous forme de chronique. C'est aussi pour ça que moi, j'essaie de faire comme ça mon podcast. C'est sous forme de conversation. Tu vois, par exemple, Slate, le podcast politique de Slate que j'ai écouté pendant des années. J'ai plus le temps d'écouter, mais c'est un des trucs qui s'appelle Political Gap Fest. Oui. Et un des trucs, c'est qu'ils sont. Ils se posent des questions les uns les autres et disent mais tu te crois toi que c'est un vieux truc du côté libertaire américain qui fait qu'on a voté pour cette loi ou est-ce que tu crois que c'est une question de constitutionnalité, tu vois, je te dis n'importe quoi. Mais tu vois, ils sont tous experts mais ils arrivent pas avec alors ma petite chronique et mon avis. C'est une conversation entre amis, tu sais, qui peut te faire changer d'avis où tu les vois réfléchir et tout d'un coup ils disent ouais, en même temps je dis ça mais c'est une connerie que je viens de dire parce que et moi j'essaye de faire ça dans le podcast. D'accord. Aussi parce que je trouve ça vachement bien. Et dans les si tu t'intéresses à la politique américaine, il y a les anciens opératifs donc des gens, anciens fonctionnaires de la campagne d'Obama qui ont fait un podcast pendant toute l'année dernière où d'ailleurs ils étaient sûrs qu'Hillary allait passer parce qu'ils avaient les meilleures infos éduquées.
On voit bien comment ça s'est passé.
Bah oui, mais c'est parce qu'en réalité l'équipe de Trump le pensait aussi.
Oui.
En fait, personne ne savait. C'est parce qu'il y a eu un vice de forme dans la façon de la population qui a voté et qui n'a pas voté. C'est pour ça que du coup personne, en fait les experts ne pouvaient pas le savoir, mais eux c'était vraiment des experts top experts et c'était passionnant ce qu'ils disaient. Et ils avaient un premier podcast qui s'appelait 1600 putain comment tu dis keeping 1600 pour keeping it 100, qui est le truc tu gardes, t'es super honnête, donc keep it 100. C'est une expression noire. D'accord, keep it 100 qui veut dire et du coup c'est le 100 souligné deux fois, le chiffre 100 souligné deux fois, c'est ça en fait, ça vient
d'accord.
de là, parce qu'en fait une émission noire de Larry Wilmore avait une section keep it 100 et où il faisait des questions et du coup les gens doivent être complètement honnêtes
Et eux, ils appellent ça Cabinet 1600, et donc pour 1600 Pen, qui est l'adresse de la Maison Blanche. Et d'ailleurs, c'est un des mecs, c'est un des co-auteurs de la série 1600 Pen, qui était le speechwriter de Obama, et qui s'appelle John Favreau. Ça n'a rien à voir avec le Jojo. Et ils ont entre-temps créé une start-up et créé un podcast qui s'appelle Pod Save America parce qu'ils sont au bord du suicide. Et du coup,
ça t'intéresse à la politique française aussi ou pas? Beaucoup moins.
Oui, mais c'est plus compliqué parce que j'ai beaucoup plus de soucis avec la politique française.
D'accord.
Je vais voter dimanche et je vais voter avec conviction. Je peux même dire pourquoi je vais voter. Je vais voter pour Benoît Hamon parce que moi j'aime beaucoup ce qu'il dit. Enfin, il parle du futur de façon positive, ce qui est hyper rare.
Oui.
Et j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on parle pas de lui.
C'est bien que tu te tiennes à ton vote et pas te dire tout de suite, de toute façon il va jamais passer donc je vote pas pour lui. Parce qu'il y en a beaucoup qui voudraient voter à mon.
J'ai toujours eu tendance à dire premier tour vote utile et en fait je crois que je suis en train de changer d'avis parce que on est dans une perte de croyance et de conviction qu'on a besoin de. Voilà, donc je n'invite pas les gens qui viennent de ce podcast à automatiquement voter à mon s'ils sont pas d'accord ou quoi que ce soit. Je les invite à voter selon leurs convictions parce qu'à un moment il faut aussi c'est pas qu'un vote, on doit vivre. C'est pas juste de l'urgence, il y a aussi du temps qui va après et on doit vivre avec nos convictions et voilà. Et l'équipe d'Amon me plaît beaucoup, il y a beaucoup de meufs, il y a beaucoup de gens, de spécialistes, d'économistes. Bon, j'avoue qu'il y a aussi une conférencière sur la conférence Buffy qui est Sandra Logier, elle fait campagne pour Amon, donc en plus on est et donc clairement elle défend les valeurs philosophiques de Buffy. Alors du coup j'ai au plus rien, mais il y a beaucoup d'économistes, notamment beaucoup de nanas, et on a l'impression qu'on parle pas de lui parce qu'il fait ses devoirs et qu'il parle de trucs qui, alors il est très idéaliste sur certains trucs, mais il y a aussi plein de trucs un peu plus compliqués, et surtout faut qu'on vive sur cette planète encore un certain nombre d'années, donc les gars, si on est que dans l'état d'urgence, c'est mort quoi. Donc voilà, moi je suis pas assez impliquée dans le sens où je devrais plus écrire sur la politique et sur le rapport entre la réalité et la politique. Je suis très impliquée personnellement, mais en fait j'étais un peu désabusée en général par le cas français. J'essayais de me reconstruire en Allemagne. En Allemagne, oui, parce que j'ai toute une problématique sur la classe intellectuelle française. Tout ça pour dire, donc la classe politique et la classe créative, hein, tout est problématique pour moi parce qu'on a oublié de penser à la substance et à la. Et à la complexité, on catégorise tout et on est en fait, j'ai l'impression qu'on ne navigue qu'entre le négatif destructif, genre oh, tout est pourri, tout ça ne sert à rien, et la complaisance. Mais non, mais pourquoi tu dis ça? Arrête de faire du French bashing. Alors je dis tout de suite, moi je fais pas de French bashing, moi je fais du French loving. Moi je pense que la France peut être un très très grand pays, est un grand pays, et donc on fait n'importe quoi. Et c'est un scandale parce que c'est comme moi quand j'étais au lycée, que les profs se plaignaient que j'avais 13 alors que je pouvais avoir plus. Et moi je dis, mais j'ai la meilleure note. Ils disaient, mais on s'en fout que t'as la meilleure note, tu peux faire mieux. Et ben c'est pareil.
Oui.
On s'en fout que la France rayonne quand même à l'étranger, on pourrait faire mieux. Voilà, et donc c'est pour ça que je vais voter selon mes convictions. Bon.
Ah, c'est beau. On va manger.
Voilà, donc du coup, stop. Voilà, c'était ce podcast qui n'a plus rien à voir avec la choucroute. Bon, je crois que d'ailleurs, je ne vais plus demander à des gens de parler parce que là, ça fait déjà 2 heures en tout si je mets tous les bouts tout à bout. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Demain, on refait pas du tout la même parce que demain, on va ressembler à un vrai podcast. Merci à qui?
Non, merci à toi, Yael. Sauf si je t'appelle Yael. Attends, oui, mais je veux dire, t'as peut-être un autre nom. Ok. Bref, merci. C'était très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses.
Merci. Oh, c'est gentil, merci à toi de nous avoir parlé de Fleabag. Ton tweet?
Mon Twitter, alors c'est
P-I-P-E-R-A-K-I
et underscore.
Le truc du 8.
Ouais, c'est ça.
Et tout à l'heure, David, j'ai pas dit, mais son Twitter c'était Spirit Darko, enfin c'est toujours Spirit Darko comme Spirit et Darko comme
Denis Darko.
Voilà. Bon, allez, à toutes et bonne soirée d'ici là.